Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Salut à tous et bienvenue dans Analyse F1, c'est Julien et je vais vous présenter une nouvelle chronique une fois n'est pas coutume, car oui, ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté de chronique individuelle. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle réglementation pneumatique pour 2016. Alors, souvenez-vous, il n'y a rien de nouveau, hein. J'avais déjà expliqué cette nouvelle réglementation en début de saison ou avant le début de saison, en vous expliquant un peu de manière simplifiée le règlement. Parce que, souvenez-vous, il est quand même assez compliqué à aborder, mais en fait, en pratique, il se révèle plutôt intéressant. C'est ce que je vais essayer de vous montrer, et peut-être que vous penserez la même chose que moi ou pas, on verra. Alors j'avais des doutes en début de saison, avant même le début de la saison, que j'avais émis au cours d'un podcast précédent, mais je me disais, allez, faut attendre de voir quelques courses pour vraiment évaluer ce système avant qu'il entre en vigueur en course. On peut pas vraiment savoir, on peut un peu analyser le texte, mais après, en pratique, essayer de voir en pratique ce que ça peut donner, mais on peut pas affirmer ce que ça va être. Bon, maintenant, il y a eu 4 courses, on a une vue d'ensemble sur des circuits assez différents de ce qui peut se passer avec cette réglementation. Donc tout d'abord, pour un vif rappel, la réglementation, c'est quoi? C'est 3 trains de pneus, 3 types de gomme Pirelli par Grand Prix. Donc par exemple, ça peut être médium, soft et super soft, et les écuries emmènent 10 trains de pneus, je crois que ça fait 13 au total avec les 12 ou 13 au total avec les trains obligatoires emmenés par Pirelli, mais sinon il y en a 10 au choix des écuries pour chaque pilote. Et voilà, ils font leur petite tambouille, par exemple si pneus super tendres, 5 pneus super tendres, 2 pneus tendres et 3 médiums, un truc comme ça. C'est des choix qui sont possibles. Bref. Et du coup, fallait voir en course comment ça allait se matérialiser en termes de stratégie, si ça allait pas trop ruiner la course qui ne serait que stratégie, si on verrait pas trop de lutte entre deux pilotes avec des pneus différents. Bon. Qu'est-ce qu'on a vu concrètement lors de ces 4 premiers Grands Prix? Eh bien, j'étais globalement surpris, finalement, agréablement surpris par la venue de ce règlement, puisqu'on a vu différentes stratégies possibles pour les pilotes et écuries. Et donc ces pilotes et écuries ont pris des risques, ont pu prendre des risques pour amener à des surprises qui ont pu être bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Alors bonnes ou mauvaises, par exemple c'est à Melbourne dès le premier Grand Prix, lorsqu'il y a eu le drapeau rouge, eh bien Mercedes a choisi d'embarquer les pneus médiums. Et c'était plutôt très bien joué, puisque ça leur a valu le doublé, il me semble. Donc c'était pas mal. Il y a d'autres exemples également. Donc voilà, on peut prendre des risques de cette façon avec le nouveau règlement. Et aussi, ça peut entraîner évidemment des mauvaises surprises. Mais en tout cas, que ce soit des bonnes ou des mauvaises surprises, ce qu'on va voir, c'est de l'action en piste. C'est de l'action en piste, du concret par rapport à une stratégie donnée. Et voilà, ça amène un peu de piment à la course également. Donc ça, on s'en prive pas, sans pour autant en plus amener de l'aléatoire ou ruiner la course. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Eh bien, c'est un peu la conséquence de ce que je viens de dire, hein, avec différentes stratégies possibles. On a vu des batailles qu'on ne verrait pas normalement, qu'on n'aurait peut-être pas vu l'année dernière. Par exemple, entre deux F1 qui n'ont pas vraiment le même potentiel. Hein. On a une monoplace qui gère mieux un certain type de pneus. Et puis de l'autre, on a une monoplace qui est réputée plus performante, mais qui a du mal avec un autre train de pneus, tout simplement, ou avec le même train de pneus. Bref, deux monoplaces qui ne sont pas de même facture, eh bien vont pouvoir lutter ensemble en course. Bon, je vous rassure, les investissements mis en jeu par les écuries, par les grosses écuries, ne se retrouvent pas, on va dire, lésés non plus totalement par ce règlement. Et heureusement, ça se retrouve lésé, on va dire, si la stratégie a été mauvaise par cet opt-team. Mais sinon, globalement, on retrouve les meilleurs devant. Mais ça peut amener des petites écuries comme Haas, par exemple, ou autres, à s'exprimer. Et c'est plutôt intéressant. Et comme ça, on peut voir un peu des fois, on va dire entre guillemets à la loyale, une Mercedes avec, je sais pas, une Toro Rosso ou une Williams lutter. Alors que normalement, ben, ce serait pas possible si on avait le règlement d'avant qui était assez strict au niveau de la stratégie, où il n'y avait pas tellement de liberté. Là, c'est vrai qu'il y a plus de liberté. Et c'est plus intéressant de ce côté-là. Du coup, eh bien, on voit également des pilotes s'exprimer qu'on ne voyait pas avant. Donc, c'est intéressant de voir ces pilotes dans différentes situations. Alors, il y a un exemple, c'est par exemple à Bahreïn, eh bien, tous ceux qui ont pu lutter avec Williams, tout simplement. Williams avait effectué une mauvaise stratégie, mais en termes de performance, normalement, est plus forte que d'autres écuries. Mais pourtant, il y avait les Haas, je crois, les Toro Rosso qui ont pu lutter avec. Les Red Bull, bon, ça c'était un peu plus normal, il me semble. Mais voilà, par exemple, la As de Grosjean qui pouvait lutter avec les Williams, c'était pas normalement, pas prévu. Donc voilà, c'était un exemple de ce qu'on a pu voir en bataille. Alors au final, du coup, ben ça favorise la compétition. Ça favorise la compétition parce que voilà, on voit plus de batailles avec d'autres écuries, plus de pilotes qu'on voit également lutter. C'est pas mal, ça favorise l'action en piste, la compétition. Le tout n'est pas aléatoire en plus. Ça, c'est ce que je craignais. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Les résultats sont plutôt logiques. Les meilleurs sont devant, il n'y a pas de souci. S'il y en a qui ont été meilleurs sur la stratégie, eh bien, les pilotes ont su bien exploiter la stratégie en étant bons en piste. Donc, il n'y a pas de souci. C'est plutôt pas mal. Donc, ben, finalement. Et en plus, concernant, on va dire, l'aspect. Complication, l'aspect compliqué du règlement que je critiquais vivement lors du podcast où je vous expliquais le règlement justement, eh bien finalement ces complications ne vont concerner qu'une minorité de fans de F1, la minorité de fans dont je fais partie qui vont vraiment creuser très loin pour savoir par exemple les gommes embarquées pour chaque pilote, les trains obligatoires pour la course, etc. qui vont vraiment aller au bout du bout, mais pour la bonne compréhension de la course, et ça ce qui est bien pour tous les téléspectateurs et spectateurs d'un Grand Prix, c'est que ce sont des éléments qui ne sont pas du tout nécessaires à la compréhension d'un Grand Prix. Donc vous pouvez regarder la course, ne pas savoir que voilà, il y a tel pilote, il y avait tel qui a emmené tant de trains de pneus super soft, de soft et de médium. Ça on s'en fout, que les pneus obligatoires en course par Pirelli sont le train de pneus soft et le train de super soft, ils font en chaussée un des deux, etc. Non, vous n'avez pas besoin de savoir ça pour bien comprendre la course. Et ça, c'est tant mieux, vous n'êtes pas perdu. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sont demandé justement, qui se sont posé ces questions-là. Donc ça, c'est bien, ça veut dire que ce règlement ne vient pas, on va dire, s'accaparer la course. Et tant mieux, parce que les pneus Pirelli s'accaparent déjà assez la course pour moi, voire même de trop. Donc là, ça aurait été vraiment, vraiment abusé. Et là, bon, ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux pour tout le monde. Tant mieux pour tout le monde et tant mieux pour les pilotes également, qui peuvent s'exprimer un peu plus largement. Mais voilà, ce système, voilà, il est plutôt pas mal. J'ai évoqué des points positifs que je n'avais pas vus, que je n'avais pas pu voir lors d'un précédent podcast, mais il y a quand même encore toujours des défauts, hein. Certes, par exemple, on voit plus de batailles. Mais on voit aussi pas mal de fausses batailles également en piste, hein, entre des pilotes qui ont des pneus frais ou des pneus plus performants et contre des autres pilotes qui ont des pneus moins frais et moins performants. C'est logique. Par exemple, des super softs contre des médiums ou des super softs neufs contre des super softs bien usés. Voilà, il y a pas photo. Le pilote qui est devant va même pas essayer de défendre parce qu'ils savent la différence de rythme avec le pilote poursuivant. Donc évidemment, ça fait des batailles, mais ce n'est pas vraiment des batailles. C'est voilà, c'est pas comme doubler un retardataire, mais presque quoi. Le pilote de devant a aucun intérêt à bloquer. Il perdrait plus de temps qu'autre chose. En plus, il est sur un train de pneus qui lui permet moins d'adhérence sur la piste. Donc il n'a aucun intérêt à dévier de la trajectoire et à ne pas laisser le pilote qui est derrière passer. Et en plus, ben, avec l'aide du DRS, qui en plus est une aide vraiment pas toujours nécessaire, eh bien, ben, ça devient une partie de plaisir pour les pilotes qui ont ben, des pneus tout simplement plus performants, plus frais, ou par exemple, voilà, super soft contre médium, comme je l'ai dit, il n'y a pas photo sur bon nombre de grands prix. L'exception, c'était Melbourne où les pneus médiums fonctionnaient bien. J'espère qu'on verra d'autres exceptions parce que les pneus médiums, là, sur les derniers Grands Prix, ah, c'est un autre défaut. Mais c'est bien la liberté avec un train de pneus supplémentaire. Mais si ce train de pneus est pourri, est vraiment pourri, c'est-à-dire que de 1, il est vraiment pas performant, les pilotes perdront au moins 1,5 seconde, 2 secondes au tour. Et en plus, eh bien, du fait de cette non-performance et des pilotes qui bataillent avec, eh bien, finalement, ils vont s'user assez vite également. Bien, il n'y a aucun intérêt à tenter ces pneus médiums. Et malheureusement, ces pilotes-là ne pouvaient pas savoir, les écuries non plus. Pourquoi? Parce que sur les Grands Prix qui ne sont pas européens, eh bien, les écuries avaient l'obligation de communiquer les trains de pneus qu'allait embarquer Pirelli au Grand Prix. Pour eux, 14 semaines en avance. Donc, c'est quand même beaucoup. Même pour les Grands Prix européens, je crois que c'est 10 semaines, un truc comme ça, 8 ou 10 semaines. C'est quand même assez énorme. Et bon, pour les écuries déjà qui existaient déjà avant, il y a un peu moins de problèmes. Ils peuvent se baser sur les données qu'ils avaient les années précédentes, en particulier 2015. En particulier 2015 et aussi 2014. Mais pour une écurie comme AF1 Team, c'est un peu, soit une prise de risque, on le voit hein, dans leur choix. Hein, il y a des grosses prises de risque qui sont un peu aléatoires en plus, mais pourquoi pas, hein, quand on est une nouvelle écurie, il faut tenter les choses. Et ou bien des choix plus prudents en mettant le même nombre de trains de pneus à chaque fois. Bon, c'est au choix. Après, ils ont les pilotes également pour les aider avec l'expérience qu'ils ont des années précédentes, évidemment. Et voilà, bon, c'est un peu ce qui est dommage parce que finalement, ça, c'est l'aspect aléatoire. Finalement, une écurie après va être prisonnière de son choix, prisonnière de sa stratégie. On le voit quelquefois, on l'a vu un petit peu avec Williams finalement, même si bon, ils auraient pu faire un autre choix. On l'a vu avec Kiat surtout, Kiat au Grand Prix de Chine, qui a dû tout simplement chausser un train de pneus, je crois, médium au lieu de soft. Ah hein, oui, et imaginons que si 14 semaines en avance, ils avaient choisi un train de pneus médium en moins et un train de soft en plus. Ben, ça aurait changé les choses, évidemment. Bon, c'est un peu dommage, mais à mon avis, au fur et à mesure de la saison, on devrait moins avoir de surprises à ce niveau-là. Ensuite, autre chose, c'est que c'est bien bête quand la course se joue sur une stratégie de pneus plutôt que de manière pure en piste, hein, comme ça s'est passé avec Vettel-Kvyat en Chine. C'est bien dommage, on aurait aimé voir les deux lutter, mais bon, après, ça fait partie de la course. Et bon, Vettel a bien joué son coup également au niveau de la stratégie en ayant économisé un train de pneus la veille. C'était plutôt pas mal. Donc voilà, mais bon, j'espère qu'on ne verra pas trop de batailles stratégiques et plus de batailles pures en piste, c'est-à-dire avec deux pilotes qui ont, on va dire, des trains de pneus qui leur fournissent une adhérence équivalente, qui soient sur un rythme, on va dire équivalent, qu'il n'y en ait pas un derrière qui écrase l'autre de manière pas loyale finalement, enfin pas loyale, si une manière loyale, mais c'est pas du fait du pilote, mais du fait de la performance des pneus. Ça c'est dommage, alors que quand on sent que vraiment c'est le pilote, là il y a quelque chose, là il y a une bataille, là il y a une performance, eh bien voilà, faudra voir ça. C'est vrai qu'il y a eu quand même des batailles de ce genre, et c'est vrai que ça nous fournit pas le... On va dire la passion qu'on peut avoir pour une bataille entre deux pilotes. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ces points négatifs, après, ça ne recouvre pas tout le reste, ça ne recouvre pas la course, ça n'empêche pas les pilotes de se battre à armes égales, ça, en plus, ça a ses aspects positifs, comme je l'ai montré, hein, des plus de batailles, différentes stratégies possibles, des écuries qui peuvent un peu plus se montrer, en plus avec le resserrement en milieu de peloton notamment. Eh bien, ça permet de voir pas mal de batailles différentes également. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, comme je l'ai dit, j'ai peur que ça se joue un peu trop sur la stratégie. J'ai peur que les écuries choisissent comme solution de facilité de justement de adopter une stratégie pneumatique différente afin de passer un concurrent plutôt que de faire confiance, enfin de voilà, de faire confiance aux pilotes en piste. Enfin, c'est pas vraiment une question de confiance. Parce que dans les usines, chaque écurie a des super ordinateurs et des super analystes qui vont leur communiquer en temps réel la stratégie la plus optimale. Et oui, il faut le savoir. La plus optimale. Et si la stratégie la plus optimale, c'est de changer de pneu pour passer un concurrent, eh bien, ils vont la choisir. Et voilà. Et du coup, on n'aura pas la bataille en piste, même si la bataille était plus perdue que gagnée au vu des données. Voilà, bon. Ça à voir, mais pour l'instant, je suis plutôt rassuré, ça va. On voit des batailles, on a vu des courses animées de vraies actions. Bon, des fois, pas de vraies actions, hein, des fausses batailles, comme je l'ai dit, mais il reste des vraies batailles et des éléments positifs en plus. Donc bon, c'est plutôt pas mal, je suis plutôt satisfait de cet apport positif de cette nouvelle réglementation. Après, on aimerait évidemment que les pneus Pirelli soient plus performants, vraiment plus performants, plus sécurisés, c'est-à-dire que il n'est pas à mettre autant de pression également dans les pneus, ce qui limite l'adhérence pour les pilotes et la tenue de route. Ça, c'est bien dommage également. Mais voilà, c'est la qualité des pneus Pirelli également. Pirelli veut les tests pour 2017. En 2017, moi, j'attends vraiment des pneus Pirelli très performants. Enfin, en espérant qu'ils aient les tests qu'ils veulent, hein, que la FIA leur accorde. Mais j'attends vraiment des pneus, ben, ce sera des pneus plus larges. On attend plus de grip mécanique, donc évidemment, les pneus auront leur grande importance pour l'action en F1. Et voilà, on espère que Pirelli réussisse son coup pour 2017, vraiment. Voilà, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie d'avoir écouté. Eh bien, n'hésitez pas à être au rendez-vous pour le prochain qui sera le cycle, ce qu'il ne fallait pas manquer, pardon. C'était quoi? En Russie, voilà, en Russie, pardon. Ça fait 2 jours, mais je me souviens déjà plus. Ça fait un jour même, et je me souviens plus de la course. Non. Ce qu'il ne fallait pas manquer en Russie, c'est dire si le Grand Prix était marquant. On y reviendra. Et évidemment, le Grand Prix d'Espagne, hein, dans 2 semaines, hein, n'hésitez pas, hein, le retour de la F1 en Europe, dans le bastion de la F1. N'hésitez pas, si vous êtes pas loin, si vous pouvez bouger le week-end, allez vous rendre à Barcelone pour suivre ce Grand Prix. Ça risque d'être pas mal, hein. Ça risque d'être pas mal, hein. D'ailleurs, dans le prochain, ce qu'il ne fallait pas manquer, on parlera un peu des enjeux pour le prochain Grand Prix. C'est important pour devant, pour la lutte pour le championnat notamment. Voilà. Bon, bref, je n'en dis pas trop et je vous donne rendez-vous au prochain podcast. Et en attendant, comme d'habitude, vivons notre passion. À bientôt.